toute façon, Man Fleischer, au-delà du fondateur du label, c'est quelqu'un qui était contrebassiste déjà avant, donc qui est un fan de musique et qui a un vrai respect pour les musiciens. Donc à partir de là, les choix qu'il a fait de musiciens qu'il a signés sur son label sont cohérents avec ce qu'il est lui. Ensuite, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime la musique pour ce qu'elle est et qui aime la produire. Donc la produire veut dire être en studio, écouter bien entendu en amont les démos de chaque artiste, ensuite être en studio, être derrière la console, écouter les prises de chaque artiste, tous ensemble ou seul selon les formations, et ensuite décider avec l'artiste de ce qui fonctionne le plus par rapport à l'émotion, la sensibilité du moment. Donc c'est vraiment un mec qui travaille la production à l'ancienne. Moi, j'ai connu pas mal de gens comme ça aussi dans la pop musique, le rock, etc., qui travaillent à l'ancienne, qui n'ont qu'une connaissance parfaite de la technologie, qui ont une connaissance parfaite des machines et qui ont une connaissance plutôt assez parfaite de la musique. En tout cas, qui peuvent, quand je dis parfaite, c'est pas parce que la perfection n'existe pas, mais qui peuvent en tout cas sortir vraiment sur une prise et sentir et sortir à la fois tous les éléments qui vont faire que tout à coup, quand l'auditeur va écouter, va vraiment se sentir touché fondamentalement. Parfois, un artiste peut passer à côté parce que lui va peut-être écouter la manière dont il a sa performance personnelle. Ah oui, là le solo de sax, peut-être que j'ai merdé sur 2-3 notes, il faut pas. Oui, mais peu importe, l'auditeur, il va pas faire attention à ce petit pin sur 2-3 notes, c'est l'ensemble qui va acquérir et avec lequel il va vibrer éventuellement. Donc Manfred, c'est vraiment à l'ancienne. Bah, son incidence, moi, elle était là sur Neighborhood, elle est là sur Playground. Moi, j'ai fait confiance, j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur lequel je puisse me poser, à savoir, j'ai dit, voilà, Manfred, il connaît les titres en démo, on fait plusieurs prises de chaque titre. Je dis, lequel te paraît plutôt bien? Il me dit, écoute-moi plutôt la take number 3. Ok, on va écouter les 3 ou 5 prises. Et puis, je vais particulièrement avoir une attention sur la numéro 3, puisque lui, apparemment, ça lui plaît. Et voilà, et à partir de là, on travaille, on construit. Ensuite, il y a un sequencing que lui fait, un ordre des morceaux que lui fait, qui me soumet. Pareil, par rapport à la pochette, c'est vraiment quelqu'un qui travaille de A à Z à l'ancienne. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce marasme économique de la musique aujourd'hui, l'industrie des disques, je pense que lui n'a jamais dérogé à ce qu'il était, à savoir que c'est un vrai musicien qui aime la musique pour ce que c'est, pour les artistes qui la font. Et voilà, donc c'est simplement une espèce de metteur en scène amoureux de l'art, amoureux de cette musique-là. À partir de là, il n'a jamais prétendu faire autre chose que ça. Donc il a toujours fait des disques qui ne coûtaient pas trop cher, qui lui permettaient de recouper, parce qu'il faut bien manger aussi pour tout le monde, c'est une industrie. Donc il lui permettait de recouper facilement et de ne pas avoir une boîte qui allait en faillite au bout du deuxième album produit. Donc finalement, pas trop d'investissement, mais surtout le gros investissement était de trouver l'artiste. L'économie du label fonctionnait plutôt très bien, sauf qu'il a trouvé un système. Et à partir de là, ces gens-là, évidemment, partaient en tournée, se faisaient connaître, il y avait des fidèles, et ils faisaient des albums, etc., etc. Donc, c'est la base même, pour moi, de la musique. Le problème de l'industrie aujourd'hui, c'est qu'on a fait l'inverse. Au début, on faisait comme ça, comme Manfred Eicher, et tout à coup, ça s'est retourné, c'est-à-dire qu'on faisait des disques avec des gens qui étaient très peu connus, qui n'avaient pas de public, en tout cas, qui n'avaient pas de fidèles, qui chantaient au-delà très bien. Mais on mettait des moyens assez énormes pour faire des albums. Une fois que les albums étaient sortis, comme il fallait recouper, que l'album avait coûté cher, il fallait donc faire beaucoup de marketing. Donc ça voulait dire encore investir sur un budget. Ensuite, les gens, finalement, une fois qu'ils étaient joués en radio, qu'on les avait vus à la télévision, partaient en tournée, mais sans fidèles. Donc c'est super dur d'aller chercher les gens, à part d'avoir un hit, comme on dit, alors que Manfred n'a jamais marché là-dessus. Il a marché sur la musique, c'est-à-dire que la musique appelle la musique et les gens qui l'aiment. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment un système qui tient tout seul, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont faire du bouche à oreille, il y en aura 4, 8, etc., jusqu'au moment où il y a des gens qui suivent Keith Jarrett depuis des années et qui sont extrêmement fans de lui, et on comprend pourquoi. Et c'est vrai que c'est ce qu'on appelle planifier une carrière. Aujourd'hui, on ne planifie pas des carrières, on planifie des coûts. Donc c'est vrai que Manfred est totalement en dehors de ça, mais bizarrement, depuis 69, c'est quand même pas mal d'années, il est toujours présent et je ne pense pas qu'il batte de l'aile du tout, loin de là, mais en plus, son label a vraiment une belle histoire et puis une belle visibilité.